sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric, réalisation Philippe Baudouin. Autour de moi, ce soir, Sophie Rosemont, Joseph Gosselin et Hugo Cassavetti. Sur nos platines, The X de Richard Swift, The Lily White Session de Riley Walker, Springsteen on Broadway chez Columbia, mais aussi sur Netflix. Il y aura un coup de cœur signé Hugo Cassavetti pour le Glastonbury 2000 de David Bowie. Et puis, toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le film An Elephant Sitting Still de Roubaud qui sort demain sur les écrans. Et nous ouvrons cette dispute avec les ex de Richard Swift sur le label Secretly Canadian, californien, mort le 3 juillet dernier, laissant derrière lui un album finalisé à 99% selon ses proches. Il était sorti sur les plateformes de streaming le 21 septembre dernier, c'est-à-dire au lendemain de la dispersion des cendres du musicien. Le disque physique, lui, est arrivé dans les bacs le 7 décembre. Avant d'en parler, on écoute Wendy. Voilà, on laisse ce morceau se finir comme il se doit dans cette émission. Richard Swift, The X. Forcément, dernier album de ce musicien disparu au mois de juillet dernier. C'est Hugo Cassavetti, qui est en pleine forme ce soir et qui a envie de commencer à parler de ce disque.
Ça, c'est un coup vache.
Pour bien commencer l'année, Hugo.
Richard aussi, remarque, comme ça, je pourrais commencer au moins à présenter à... J'imagine que beaucoup d'éditeurs ne savent pas plus que nous qui est Richard Swift. Non, je rigole. Non, Richard Swift...
Ça fait pas rire du tout, Sophie Rosemont.
Ben voilà, qui elle, apparemment... vit avec Richard Swift depuis 10 ans, bon, jusqu'à août dernier, puisque
juillet même.
C'est pas drôle, il est mort. Et apparemment, ça a ému énormément de gens. Non, mais voilà, je connaissais bien de nom, plus comme producteur de gens très connus comme Damien Jurado, Foxygène, même les Shins, avec sa touche un peu néo-psyché pop. Et surtout qu'il avait à démarrer, mais moi je le découvre un peu, je connaissais vaguement, mais je m'étais pas penché sur ses disques, et c'est peut-être le premier que j'écoute en profondeur, pour être honnête. Richard Swift, c'est il s'inscrit dans la lignée de beaucoup de ses auteurs, notamment américains, un peu maudits. Alors, on pourrait citer Jason Molina, Mark Linkous. C'est pas tout à fait le même truc, mais tous ces gens disparus prématurément, très cultes, pour un petit univers moitié un peu producteur, célébré pour un culte d'avoir entretenu une musique alors indé, avec quand même des références très qui vont des années 60 à tout ce qu'on appelle l'Americana. En bricolant des sons, des couches, mais Sophie me contredira peut-être, puisque c'est les spécialistes de Richard Swift.
Elle s'exprimera dans un instant.
Et voilà, donc à ça sa mort, quoi, ça, on a vu ça, beaucoup de gens très émus. Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas, et du coup, on a récupéré ce disque, The Hex, qui veut dire c'est le sortilège, un peu la malédiction, peut-être plutôt dans son cas, et qui est encore quelqu'un qui est mort avec voilà, ce disque qu'on écoute. En découvrant qu'il est mort alcoolique, quoi,
une hépatite.
D'une hépatite, ouais, qui était, et apparemment quelqu'un qui, dans la lignée, on peut dire l'original de tous ces gens-là, le talentueux Stacy Barrett, des gens qui se sont cramés en faisant une musique assez, non pas gaie, joyeuse, mais en tout cas portée par des mélodies, quelque chose des recherches. On se dit, tiens, c'est léger, c'est assez beau, il y a une recherche là-dedans, et qui ont une profondeur, dans le fond, dès qu'on se penche un peu de près, c'est assez noir et dépressif, des gens qui luttent, qui font des musiques comme ça, la seule chose qui ont l'air de les sortir de terre. Et c'est ce qu'on trouve sur ce disque, des Mollies. Moi, je découvrais ce morceau qu'on a choisi, qui a un côté à mi-chemin entre... Ça me faisait un peu penser à l'effet que faisait le Jason Mary Chain à l'époque. C'était comment recréer à Glasgow par deux types, un peu deux frères dépressifs, comment créer par des garçons la musique des Shangri-Las. Alors à l'époque, c'était dans les années 80, se réinventer le Velvet Underground et les Beach Boys, tout ça concassé sous un mur de son. Et voilà, c'est ce morceau-là. C'est pour ça que je me suis arrêté sur celui-là, parce que c'est celui qui m'a accroché le plus, quoi, avec ce petit gimmick. Et pourtant, on voit cette voix qui n'est pas si légère que ça. Et puis après, on rentre un peu dans le peu qu'on comprend des textes. C'est quand même assez sombre et noir. Et ça se finit sur... Ça se finit pas, mais un morceau sur Dirty Jim, quoi, qui est sur son frère. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de décès autour de lui. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a ramé dans cette misère en faisant des disques, apparemment contribué à des disques de pop plutôt assez enchanteurs. Et qui a réussi ce disque qui, alors d'après les spécialistes, j'ai écouté un peu les autres, serait peut-être son meilleur, ce qui est toujours un peu l'histoire tragique. On finit là-dessus. Ils disparaissent et maintenant il reste plus qu'à découvrir, à remonter, à embobiner et découvrir et pleurer Richard Swift qui n'est plus là. Voilà.
On va entendre la spécialiste Sophie Rosemont. Mais avant, Joseph Gauss, qui avait envie de commenter les propos d'Hugo, que savait-il
commenter. Enfin, en tout cas, effectivement, dans le morceau qu'on a entendu, ce côté très subliminal avec le Dadou Run Run qu'on retrouve, ça a quelque chose de, comment dire, de cette idée d'aller piocher dans le passé, d'en refaire une version un peu plus sale, ou en tout cas un peu plus meurtrie, peut-être, et d'essayer de trouver derrière la joie apparente quelque chose d'un peu fêlé, quoi, d'un peu cassé. Donc c'est de ce point de vue là ça marche pas mal. Moi ça me si on enlève le contexte, si on essaie d'enlever le contexte de c'est le disque
de l'album
de quelqu'un, voilà, de quelqu'un qui est décédé. Moi ça me renvoie et en même temps je vais essayer de commenter les références qu'Hugo vient de faire, notamment celle sur Jason Molina, qui est quelqu'un que j'affectionnais particulièrement, qui est un songwriter qui a fait beaucoup de disques aussi et qui est décédé prématurément. Je crois que si on prend ce fil-là du chanteur rock et qu'on se pose la question aujourd'hui de qu'est-ce que c'est qu'un album de rock, qu'est-ce que c'est que ce genre de disque, je pense qu'on a chacun on plaque chacun sur une personnalité quelque chose qui nous va bien à nous, et c'est vrai que sans vouloir dire du mal de ce disque ou dire que c'est pas un bon disque ou dire que c'est un excellent disque, sans rentrer dans ces préjugés là, je me suis vraiment posé la question de quelle est ma grille de lecture, cet album. Pourquoi est-ce que dans le fond ça ne me fait pas grand chose? Parce qu'en fait dans le fond ça ne me fait pas grand chose, alors que Jason Molina me faisait beaucoup de choses. Là ça ne me fait pas grand chose, je m'ennuie même, en fait. C'est vrai qu'il y a ce côté sombre très répétitif que je trouve même un peu trop répétitif. J'aime bien en fait deux chansons qui sont au milieu et à la fin, la chanson qui s'appelle Sister Song, qui justement est assez brève et qui va droit au but et voilà, et emmène la narration de façon très rapide, très concise. Et la dernière, September 20th, je crois, que j'aime bien aussi. Mais j'ai l'impression que ce sont deux chansons qui sont un peu hors du reste, et que le reste est quand même dans une espèce de répétition, et comme si souvent, je me suis souvent surpris à me dire, tiens, j'ai l'impression que la chanson n'est pas terminée, ou qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est un peu trop répété pour que ce soit vraiment terminé. J'ai l'impression d'être effectivement face à quelqu'un qui a l'air de sombrer, peut-être, ou en tout cas qui va pas complètement au bout de ça. Alors peut-être que, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un album inachevé, peut-être qu'il y a de ça. Ce qui est certain, c'est oui, c'est un album sombre, mais j'ai l'impression que c'est un album sombre, mais aussi c'est un album un peu trop répétitif pour moi. Répétitif dans son esthétique générale. Voilà.
Finalement, j'ai bien fait de commencer par ces messieurs, Sophie, heureusement, parce que vous allez pouvoir apporter plus de positivité, je pense, à l'écoute de cet album.
Prendre la défense de cet album qui est, oui, peut-être le meilleur de Richard Swift, dont le talent a été quand même assez mésestimé. C'est vrai qu'on le connaissait plus sur ses talents de producteur, sachant qu'il a à chaque fois fait, par exemple pour Damien Jurado, il a produit Saint Bartlett, qui est pour moi le meilleur album de Damien Jurado. Il a produit le troisième album de Foxygène, qui pour moi est de loin le meilleur, avec notamment ce sublime titre, ce San Francisco. Et Laetitia Sadier, Nathaniel Radcliffe, à chaque fois il a donné beaucoup à ceux pour lesquels il travaillait, et peut-être un peu moins ou de manière plus brouillonne. C'était quand même quelqu'un qui, contrairement à Jason Molina, a eu moins l'occasion, ou moins peut-être de talent, justement, je ne sais pas exactement, de volonté
à s'accomplir
en fait, en solo par lui-même. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est que avec The X, et c'était pour ça que ça a fait de la peine à ceux qui le suivaient depuis quelques années, une ouverture était faite. Et, la répétition a toujours fait partie de ces chansons, donc je crois pas que ça ait vraiment un rapport avec l'inachevé. Il y a toujours eu cette espèce de suspension dans ces disques, mais ici, le contraste est plus fort entre le souffle mélodique assez incroyable, je trouve, au fil de l'album. L'énergie, la richesse orchestrale, il y a du rétro, il y a du baroque, il y a du garage, il y a de la soul. Espèce de fascination toujours en filigrane pour le mur du son. Et à côté de ça, une noirceur, car c'est avant tout un album qui parle de deuil et qui parle d'impuissance face à l'alcool, clairement. Donc le fait d'être perdu, à tout point de vue, perdu sans sa mère, sans sa sœur, la relation avec son frère. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait lui-même fondé une famille. Et complètement dévoré par l'alcool. Et un de ses derniers posts sur les réseaux sociaux a été « J'ai terminé mes 11 chansons qui seront pour les amis et la famille. » Et finalement, est-ce que c'est pas dans quand on a ce type d'initiative qu'on est le plus universel. C'est-à-dire que je crois qu'il a jamais été aussi introspectif, aussi sincère. Je dis pas qu'il n'était pas avant, mais peut-être plus dans la démonstration, dans la narration, qu'il avait notamment appris avec The Shins. Et les Black Keys, il a joué aussi avec les Black Keys. C'était quand même quelqu'un qui a besoin de bouffer, surtout. Richard Swift, qui est né dans une famille de Quakers, il a appris à chanter dans l'église, et justement, j'ai trouvé que dans cet album, on retrouve vraiment cette ferveur qu'il avait sans doute en chantant enfant. On retrouve le fait qu'il ait chanté dans des églises pendant de longues années avant de se tourner vers le profane. Donc oui, il y a quelque chose, en tout cas, une dimension spirituelle que j'ai ressentie très fort à l'écoute de cet album, et notamment sur le deuxième titre qui s'appelle Broken Fingers Blues, et qui pour moi a quelque chose de très très spirituel, de très fort. Et cette répétition, ce côté inachevé, est parfois un peu brouillon, mais beaucoup moins que ses 7 précédents albums. C'est ça qui est fou, c'est qu'il a fait 7 albums solo dans l'indifférence plus ou moins totale, alors que chacun reconnaissait son talent de producteur et qu'il a sorti vraiment le meilleur des autres. Donc je pense que c'est une perte, et car il n'était pas du tout en fin de course. Et au contraire, quelque chose s'ouvrait à lui, mais...
Voilà. Et il s'est détruit, cet homme-là. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Hein. Les disques que j'ai fait, comme Hugo Cress avait dit, j'ai un peu fait de rattrapage. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'albums déjà. Donc, c'est vraiment un rattrapage très cosmétique. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a le plus touché, c'est sa voix. Alors, bizarrement, c'est pas le type de genre de voix qui d'habitude me touche. Et là, il y a quelque chose chez lui qui passe, qui est assez étonnant, et qui est une forme de décalage aussi avec quand même toute cette collection ou ce catalogue de types de musique que vous évoquiez, Sophie Rosemont. Moi, il y a quelque chose. Alors, oui, une fêlure, quelqu'un. Alors, oui, qui est très très blessé, très cassé par la vie, sans doute.
Mais quelque chose d'un peu étouffé, presque.
Ouais, mais j'étais très très sensible à ça, messieurs, Joseph Gosse.
Mais oui, c'est vrai que la voix effectivement marque tout de suite. Mais moi, mon impression, c'est que on est aussi face, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de disques comme ça, des disques rock avec des voix assez là comme ça. Évidemment, d'un coup, je n'arrive pas à vous donner un exemple, mais avec des voix très très particulières. D'ailleurs, les autres, on va parler de Bruce Springsteen, mais le Riley Walker aussi a quelque chose dans cette voix, dans cette veine là. Moi, mon impression, c'est aussi de manière un peu plus large, c'est que ce genre musical là, enfin le rock, je crois à mon sens, est en train de devenir aussi, est en train de devenir ce qu'a été le jazz, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même de plus en plus avec des niches, et que finalement aussi, à un moment on sait reconnaître, on peut s'identifier à la beauté d'une voix, tout comme on s'identifie au souffle par exemple d'un John Coltrane, ou au jeu de Thelonious Monk, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, qui est en train de se jouer, parce que finalement cette musique-là aujourd'hui ne porte plus non plus des tubes universels. Évidemment, c'est la souffrance, etc., ça peut toucher à l'universalité, mais il n'y a plus ce tube, ce rôle-là, le rôle de la pop, il est joué ailleurs. Et du coup, un album comme ça, c'est pour ça non plus que je veux pas non plus dire que c'est un mauvais disque ou que c'est un bon disque, mais c'est juste que c'est un disque qui existe, et que ce garçon-là a fait ce disque-là, et que effectivement on peut s'y identifier si on arrive à y rentrer. Et la voix peut être une porte d'entrée, mais aussi une porte de sortie.
Hugo Cressavetti.
Oui, mais juste en écoutant tout ça, c'est, je pense que de toute façon, on est heurté à on se confronte à la difficulté de réinventer la roue. Ce qui arrivait quand j'ai cité Jason Mary Chain, c'est quelqu'un à l'époque, on arrivait à réinventer la roue, c'est-à-dire à réinventer le Velvet avec un son qui était totalement de leur époque et tout. Et c'est la seule chose, c'est ce qui me séduit, par exemple, la chanson que j'ai choisie. Et en même temps, c'est ce qui me gêne pour, c'est drôle parce qu'on compare ces deux productions. Il y a des Jason Molina ou des Damien Girardeau qui sont des auteurs. Voilà. Et puis l'autre côté, des Foxygène qui, dans des places, sont des faiseurs. Et j'ai l'impression d'entendre un mélange des deux, et avec une musique, parce que Joseph, je vois ce qu'il veut dire, mais il parle du rock. Là, j'entends cette vague qui, moi, finit par me fatiguer, de récréation, de réinvention par des gens qui ont la connaissance, qui sont plutôt dépressifs, qui veulent essayer de réinventer l'innocence et la naïveté de la pop. Et il y a quelque chose qui, parfois, est assez séduisant, parce qu'il y a ce frottement, et à d'autres moments, c'est un empilement de sons pour faire comme.
Les pop les plus innocentes ont toujours été bourrées de dépression, et Brian Wilson est le même exemple. Les pop les plus innocentes.
Oui, mais il le faisait de façon totalement inconsciente. Je pense qu'au moment de faire ses chansons, ça sortait de lui et qu'il n'avait pas l'intention d'exprimer de la détresse dans ses chansons. D'ailleurs, il chantait avec des choses extrêmement. Mais c'est vrai. Et parce que justement, il s'échappait par là. Alors que là, ils essaient de mettre du sombre. Alors, on va dire que les Shangri-La chantaient des chansons de mort aussi, on me dira, mais elle les écrivait pas.
Oui, mais là, les souffles, tout ce qui est mélodique dans cet album, le côté justement symphonique, orchestral, est quand même assez relevé, plutôt pop. C'est dans les textes qu'on retrouve cette noirceur.
Oui. Mais on sent cet empilement d'arrangements qui, parfois fonctionnent et qui a dans beaucoup de disques. Vous parlez de Foxygène. Foxygène, c'est un disque que j'ai décroché très vite. Au début, ils ont fait illusion, et j'ai l'impression qu'il y a une horde comme ça, de gens habiles, de faiseurs, on peut dire les Lemon Twigs.
Vous avez décroché après le troisième album, Hugo.
C'est le double, le troisième.
Bah oui. Donc, ouais,
dont la moitié était bien. Déjà, le troisième album, il y en avait un double.
Et dernier mot, Joseph Gosse.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement la question de la post-modernité, si je peux me permettre. C'est-à-dire que on est face à une génération qui connaît tout, qui a tout écouté, et qui à un moment n'arrive pas non plus à se détacher de ça, à se détacher de cette connaissance et à être juste dans l'expression de quelque chose. Ce que faisaient effectivement les Shangri-Las, qui étaient ou Phil Spector, etc., qui étaient dans l'expression de quelque chose, mais qui avaient aussi sans doute un but commercial. Là, j'ai l'impression qu'on est souvent confronté à une expression d'une redite, quoi.
Bon, écoutez par vous-même ce disque de Richard Swift, The X, sorti sur le label Secretly Canadian. On va parler ensuite dans cette émission de Riley Walker, de Bruce Springsteen et de David Bowie.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec The Lily White Session, Riley Walker. Alors là encore, un cas de figure très particulier, puisqu'il s'agit d'une reprise de l'album jamais sorti de Dave Matthews Band, produit en 2001 par Steve Lily White. Bon, si vous n'avez pas compris, on vous explique tout ça après avoir écouté Big Eyed Fish.
Story of a man who decided not to breathe. Turn red, purple, and blue, and colorful indeed. No matter how his friends beg, well, he could not conceive. And now he's dead, you see, 'cause everybody knows you've got to breathe. Oh God, under the weight of life, things seem brighter on the other side. Another one, see this monkey sitting on his tree. One day decided to climb down, run off to the city. Look at him now, tired and drunk, and living in the street. A monkey shouldn't know to stay in the tree. Oh God, under the way of light, things seem brighter on the other side. Oh God, under the weight of light, things seem brighter on the other side.
de Lily White Session de Riley Walker. Mais de quoi s'agit-il en fait, Joseph Ghost? Qu'est-ce que c'est que ce disque?
Il s'agit, il s'agit d'un exercice de style, c'est-à-dire un groupe qui, enfin, un chanteur, un musicien qui reprend un album déjà sorti. Jusque-là, voilà, autant effectivement se confronter à un album entier plutôt qu'à une seule chanson, pourquoi pas. Mais il s'agit d'un album qui a un statut mythique, sauf que moi, bon, en fait, c'est un album que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cette anecdote. J'étais totalement passé à côté, mais bon, voilà. Donc c'est un album qui n'était jamais sorti, enfin, officiellement, et qui avait été un des premiers, apparemment, albums à leaker, comme on dit, c'est-à-dire être mis sur Internet, via cette ancienne plateforme qui s'appelait Napster, si je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc c'était avant le streaming, ouais. etc. Et donc, il y a eu ce côté de disque fantôme, un peu culte, etc. Bon, jusque-là, on en connaît d'autres. Moi, ça me fait penser au Black Album de Prince, qui avait été retiré et qui est devenu aussi un objet de culte, etc. etc. Pourquoi pas?
Dave Matthews Band, alors.
Dave Matthews Band, ben, pff, pas grand-chose à en raconter, vous voyez. Pas grand-chose à en raconter. Je suis pas allé chercher.
C'est Sophie Rodemont qui a fait tout le programme ce
voilà,
soir.
C'est Sophie, exactement.
Tel qu'il exactement. Va finir.
Non, moi, je me suis vraiment arrêté sur ce disque-là, sur ce que j'entendais là. Et c'est marrant d'avoir mis cette chanson-là parce que je trouve que le disque commence à être bien à partir de cette chanson. J'aime même pas du tout les cinq morceaux qui précèdent. Je rentre pas vraiment dedans. Il y a tout un côté un peu jazz, un peu free jazz, enfin faussement free jazz à mon sens, qui fonctionne pas du tout. Par contre, sur la longueur, ça m'intéresse davantage, notamment dans les moments où sans doute ça chante moins. Même si j'aime bien sa voix, mais je préfère quand ça chante pas. Je préfère quand il n'y a pas trop de saxophone. En tout cas, pas trop ce côté-là. Et par contre, quand ça tourne et quand ce sont des moments un peu qui s'allongent, qui prennent un peu du temps, je me dis, tiens, ça m'intéresse davantage, je me laisse beaucoup plus aller. Et du coup, ça construit quelque chose un peu plus sur le fil et qui me mène bien jusqu'à la fin de l'album. Je trouve que c'est un disque je suis assez mitigé, je le trouve à moitié réussi, effectivement, j'aurais coupé pas mal. il est long, je le trouve un peu long, vraiment trop long. Mais sur la fin, oui, ça me j'aime bien. Après, effectivement, là encore, on est dans ce qu'on racontait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi d'un coup faire ce pas de côté qui est aussi un pas en arrière, pourquoi reprendre cet album-là, pourquoi aussi finalement s'attacher à une voix comme celle-là qui ressemble qui est singulière, mais qui finalement ressemble à plein d'autres. On citait en antenne, je crois, Jason Molina, on citait plein d'autres gens comme ça. D'un coup, il y a quelque chose qui m'interroge sur la nécessité réelle de ça.
Sophie Rosemont, autre amatrice de saxophone. Et de Kenny G.
Surtout de Kenny G. Non, je m'interroge aussi sur la nécessité de cet album, surtout que Riley Walker avait sorti un album en 2018, Deaf Man Glens, qui était plutôt bien, même si moi je le préfère quand il est sur le registre British Folk. J'avais beaucoup aimé son album Primrose Green il y a quelques années. Bon, là, il a 30 ans, il s'est dit je vais attaquer mon idole de mes 15 ans, cet album un peu culte qui a été abandonné, qui avait été donc enregistré avec Steve Lillywhite, qui a été abandonné parce que soi-disant l'album était trop dépressif. C'est vrai qu'on dirait du Eddie Vedder sous Xanax. Donc déjà Eddie Vedder c'est compliqué, mais alors sous Xanax c'est pire encore. L'original est pas hyper intéressant. Il y a quelque chose, mais c'est pas très très intéressant. Après, je suis pas une grande amatrice du Dave Matthews Band, que je trouve globalement assez ennuyeux. Respectable, mais ennuyeux. Et l'avantage de ce disque, cependant, c'est qu'il rend les chansons plus singulières et plus intéressantes que sur l'original. Ça, on peut pas lui enlever, justement, l'apport des cuivres, espèce de côté faussement, j'avoue, free jazz, parfois des petits emprunts à Tortoise, hein, on est à Chicago, hein, c'est voilà, qui sont plutôt intéressants. Et surtout quand il s'éloigne complètement des chansons. Et donc j'ai appris que Dave Matthews avait découvert cet album dans un disquaire, évidemment, forcément, pour la légende, et qu'il n'avait pas reconnu du tout ses chansons jusqu'à ce qu'il s'intéresse aux paroles en disant « Ah bah tiens, effectivement, c'est les miennes ». Donc il les a quand même assez détournées. Maintenant, pourquoi sortir cet album-là? Pourquoi ne l'avoir pas avoir fait juste chez lui avec ses copains? C'est la grande question. Mais il est vrai que c'est un peu plus intéressant que l'original, donc rien pour ça, on le prend. Mais ça, et en plus de la laideur extrême de cette pochette.
Ah, je suis pas d'accord.
Oh, une laideur totale. Voilà, c'est un album à la fois respectable et à la fois assez dispensable, étonnamment. Voilà, l'exercice de style valait le détour, mais est-ce qu'il vaut vraiment de s'extasier? Je ne crois pas.
Hugo Cassavetti, à présent.
La question, c'est quoi? Pourquoi il a fait cet album? Je pense que Riley Walker, qui en est à quoi, 6-7 albums, qui reste quand même un peu, non pas une énigme, mais quelqu'un qui se cherche beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, il est de Chicago. Donc, ville déjà, c'était la ville du blues, mais qui est paradoxalement devenue la ville un peu du post-rock ou de groupes comme Wilco, qui est un groupe probablement le plus inventif des groupes d'Americana. Il est dans cette culture-là. C'est quelqu'un qui a été fondé, c'est un guitariste à la base, assez doué, qui pourtant totalement au début s'est fait connaître en étant un peu de disciple émule de Burt Jansch, de quasiment toute l'école folk britannique. Donc je dis ça parce que moi l'album sur lequel j'avais beaucoup aimé de lui, c'était le 3 ou 4e, qui s'appelait Golden Things That Have Been Sung. C'est la première fois qu'il s'approchait d'essayer de renouer avec cette musique qu'il y a eu en Angleterre au début, autour des années 60, dont on va dire et reste le chef-d'œuvre absolu, restera Astral Weeks de Van Morrison, mais qui allait de tous ces gens, de Roy Harper beaucoup de disques qui sortaient à l'époque. Et mais même par moments sur ce disque, c'est drôle parce qu'on parle de sa voix, il a pas une voix, il a des voix de quelqu'un qui n'est pas un chanteur, donc qui petit à petit, comme un caméléon, imite un peu les autres chanteurs. Il y a des fois, il a la voix de Nick Drake, des fois de Tim Buckley, des fois de sans la puissance, parce qu'il n'a pas celle de Van Morrison. Et c'est avant tout un guitariste et un musicos. Donc, quand je dis que par rapport à ces groupes, et John Martin, ça me fait penser beaucoup, des gens qui étaient des gens à la fois totalement dans le folk anglais, des virtuoses de la guitare, et qui avaient introduit toutes ces références un peu jazz, comme ça, de structure un peu libre. Et ce qui est intéressant, pourquoi faire cet album? Parce que il se cherche, ce garçon américain qui est là, qui a que des références. On parlait tout à l'heure de ce rapport au passé, comment réinventer et apporter quelque chose. Il n'y arrivait pas, il a fait quelques beaux disques. Et là, en gros, j'ai l'impression que c'est un exercice pour lui d'aller chercher ce qu'il était à l'origine ado. Il était fan de ce groupe, le Dave Matthews Band, ce groupe de ce Sud-Africain installé en Amérique, qui est devenu l'archétype de ce qu'on appelle tous ces groupes un peu comme fiche de ce qu'on appelle de jam band, de post-Grateful Dead, mais un peu emmerdant, mais avec un succès énorme, qui font des assez virtuoses, qui font des longs morceaux étalés. C'était ça le Dave Matthews Band, qui a eu un succès phénoménal. Sauf que juste à l'approche du grunge, et puis il y a eu le grunge et tous ces trucs là où c'est devenu le groupe ringard par excellence, quoi, très populaire. Et lui, ado, a été ça, et c'est une manière un peu de, comme s'il avait coupé avec ça en allant, parce que c'est beaucoup mieux de dire moi c'est Burt Jansch, c'est Roy Harper et tout, et là il retrouve ses racines d'où il vient. D'où vient cet instinct qu'on trouvait dans ces disques de retrouver une sorte de virtuosité qui vraiment, et moi ce disque me perturbe beaucoup parce que Dave Matthews Band, ça m'a toujours ennuyé, et j'écoute ce disque et c'est drôle que Joseph dise ça parce que j'ai eu le même effet. Je le mets, je vois pas tellement la différence, et petit à petit je me dis mais c'est bizarre, je trouve pas ça désagréable. De temps en temps je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette, c'est la vieille blague sur le Grateful Dead que dit un fan du Grateful Dead quand il a plus de drogue, il dit mais qu'est-ce que j'écoute comme merde. Mais non, mais c'est et en même temps, on se reprend. Et ce disque est assez fascinant pour ça. Mais ce n'est qu'un exercice de style de quelqu'un qui est en train de retrouver qu'il était à 12 ans. Parce que maintenant, il a l'aptitude et la technique. Et comme s'il vengeait tous les fans du Dave Matthews Band de « Vous aviez pas tort d'aimer ça, regardez, ça donne Riley Walker. »
Mais la question, c'est est-ce que ça nous passionne? Bon, ma réponse, c'est non.
C'est pas inintéressant.
Je vais aller faire vite parce que le temps presse. Non, mais c'est vrai,
c'est un objet curieux, oui.
Ça le regarde lui, quoi, plutôt que... Ouais. Donc, tout petit mot, Joseph.
Non, effectivement, c'est sans doute pas passionnant sur la longueur, mais ça renvoie quand même à cette
objet
question
de début d'année, hein, pour faire avec l'actualité discographique.
Pourquoi la nécessité de créer des histoires autour des disques? Pourquoi la nécessité de créer une histoire autour d'un disque aujourd'hui?
Bon.
Pour se faire entendre.
On va parler de deux autres messieurs dans un instant qui n'ont pas ce type de problème, même s'ils ont pu l'avoir autrement.
Ils ont créé des histoires, quand même.
Ils en ont créé.
Ils les racontent, en tout
cas. Là, nous parlons de Lily White Session, qui est sorti chez Dead Ocean Piace, le disque de Riley Walker. « C'est donc le moment du coup de cœur, ce soir signé Hugo Cassavetti pour Glastonbury 2000 de David Bowie, qui sort chez Parlophone.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. As she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a sad and bore, 'cause she's lived it 10 times or more. She's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that. The wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. It's the best-selling show. Is there life on Mars?
Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on parle, quand le micro s'ouvre? Vous disiez quoi? Sophie Rosemont,
prenez de l'héroïne à Berlin, excusez-moi.
Voilà, c'était la fin de la phrase. Bon, Glastonbury 2000, on est très jaloux d'Hugo Cassavetti parce que lui, il a ce double album et pas nous, imaginez-vous.
Et encore, qui était trip, parce que l'intérêt du trip, c'est que le troisième, c'est le DVD, c'est
et
l'intégralité du concert.
En fait, je l'ai offert à quelqu'un. Et vous le regrettez déjà.
Il est épuisé.
Et on salue la personne qui vous écoute.
Prenez de l'héroïne à Berlin.
Alors. Pourquoi ce disque est sorti peu avant Noël, qui était Bowie? Il y a beaucoup de lives qui sont sortis, des officiels. Personne n'est d'accord sur le bon. Il n'y en a pas un vrai. Alors après, moi, j'ai une. Mais je pense que c'est purement affectif. J'adore le premier, David Live de 74. D'autres trouvent qu'il est très bourrin avec tous les solos. Après, d'autres aiment Stage et tout. Mais il n'y en a aucun de vraiment satisfaisant. D'ailleurs, parce que Bowie, pour tous ceux qui l'ont vu, c'était fascinant. Mais ça n'a jamais été forcément ce qu'il y avait de mieux sur scène. En tout cas, sur live, c'est jamais si bien que ça. C'était bien pour lui, pour sa personnalité. Et là, on se retrouve avec ce disque assez miraculeux qui sort, cette performance. Donc, il venait, il y avait eu tous les années 90 qui avaient commencé avec le pire, certaines machines. Oui. Et après, on peut être en d'accord ou en désaccord sur Outside, Heaven et tout ça. Et tout à coup, en 2000, il revenait avec la première de cette trilogie d'albums qui s'appelait Hours. Où tout à coup, il faisait des, un peu à la manière d'avant, quoi. Mmh. On retrouvait le Bowie qui chantait plus calmement, qui retrouvait le Bowie, non pas sans ambition, mais qui avait arrêté d'être celui qui voulait toujours en avance sur son temps, quoi. Mmh. Et il est revenu, il avait pas fait de scène depuis longtemps. On a redécouvert après des looks les plus affreux de sa carrière, avec la veste Steve McQueen en drapeau anglais et les cheveux carottes là. Il est arrivé tout à coup, il a surgi avec la coiffure qu'il avait quasiment sur la pochette de The Man Who Sold the World en 60. Il a été passé 30 ans auparavant exactement au même endroit que Glastonbury, juste après Space Oddity, avec ce look-là, avec ses cheveux tombants à la Lorraine Bacall, une tenue, c'était pas une robe mais qui ressemblait beaucoup. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est qu'il arrive. Ça, c'est ce qu'on voit. Gêné, il a peur. Il a peur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu aussi touchant et humain. Et on voit dans la voix, il chante admirablement bien, mais il y a une hésitation parce qu'il est en plein air devant ces gens. Et on le voit tout à coup, il y a une énergie qui revient. Et moi, c'est rare de le voir comme ça. On le voit toujours, toujours dans la maîtrise absolue de tout. Et c'est la première fois où on le sent qu'il y a quelque chose qui revient vers lui. C'est tout à coup, il a laissé tomber ce truc de « c'est moi, je suis le maître du jeu ». Il se laisse porter par ça, il se retrouve en tête d'affiche de Glastonbury et il emporte le morceau. Ça reste, et tout le concert est comme ça. La setlist est quasi parfaite. Il démarre par Wild is the Wind, qu'il faisait jamais. Et voilà, c'est que des morceaux comme ça. C'est joué, c'est plutôt sobre. Il n'y a pas les effets de jazz rock de qu'il a eu par moment, des trucs comme ça, avec le guitariste de King Crimson, j'oublie son nom. Et il y a quelque chose, il y a une grâce, quoi. On lui connaît cette grâce, et là, il l'a. Et en live, ce qui est quand même rare, en 2000, quoi, 18, 19, oui. d'apprécier les albums live, quoi. Ça a moins de sens qu'avant. C'est bien de voir en vrai, mais l'album live n'a plus la valeur qu'il est avant. Et là, tout à coup, on se dit, oui, ça a du sens encore.
C'est vrai, c'est quelque chose. Moi qui adore les albums live.
Mais oui, on adorait ça et on s'en fout maintenant.
Non, mais.
Mais ça a moins de sens.
Ça a moins de sens. Il n'y en a pas moins aussi, surtout.
Non,
c'est
parce
que. Il y a plus de disques.
Ça a moins de sens que c'est la plupart des concerts. Non, mais on va pas s'étendre. Parce que la plupart des concerts sont à moitié enregistrés en bande et refaits et tout ça.
Ça a moins de sens.
Voilà. Oui.
Truc que Riley Walker reprend.
Mais en tout cas, voilà. C'est assez, si vous aimez Bowie ou si vous voulez le retrouver. Et le retrouver là. C'est probablement, voilà, il y aura d'autres concerts après. Ah oui, le Reality Tour est beaucoup moins bien.
Moi, je me suis pas remis de sa mort, hein, je vous le dis clairement.
Et ça, il y a un état de grâce, un moment de grâce, où on le retrouve exactement comme on a toujours envie de le voir. Quoi.
Moi,
et en plus, à 53 ans, qui renoue sans renier son âge avec ce qu'il était au début, avant que ça explose. Quoi.
C'était, son anniversaire, c'était son anniversaire aujourd'hui.
Et c'était son anniversaire aujourd'hui, effectivement.
Bon. On ne va pas pleurer, mais on va essayer de se procurer, quand il retrouvera le chemin des bacs, ce Glastonbury 2000, avec le DVD, puisqu'il y a donc un double CD, et le DVD pour écouter où on veut et regarder, tant qu'on veut, David Bowie chez BBC, avec Parlophone, pour cette sortie.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier sujet de cette dispute... Quelqu'un qui va avoir 70 ans cette année, c'est Bruce Springsteen. Springsteen on Broadway, qu'on peut trouver en double CD chez Columbia et qu'on peut voir aussi sur Netflix. Alors, cette sortie n'empêchera pas les fans du boss, dont Sophie Rosemont fait partie, d'attendre avec toujours autant d'impatience un nouvel album. C'est une blague, mais on va le comprendre assez vite. On va découvrir ici Springsteen, peut-être comme on ne l'avait jamais vu, entre tour de chant acoustique, stand-up, confessions intimes, dans une salle de Broadway de 975 places, où il a joué pendant presque 15 mois, 5 soirs par semaine, ce qui fait quand même 236 dates en tout. On va écouter Growing Up... Mais avant, il y aura son introduction, puisque chacun des morceaux est précédé d'une introduction. Et là, c'est le tout début du show, et on va voir que dans les grands moyens que sont ceux de la dispute, nous avons fait un doublage pour cette entrée en scène du boss, featuring Boris Spino.
Votre ADN, vos prédispositions, l'étude de votre art, le développement et le dévouement à une philosophie esthétique, des couilles, le désir brut de gloire, d'amour, d'adoration, d'attention, de femme, de sexe, de pognon. Si vous voulez tenir jusqu'au bout de la nuit, il faut avoir en vous le feu sacré et qu'il brûle sans s'arrêter. Voilà des éléments qui vous seront utiles si vous devez un jour faire face à 80 000 fans de rock en délire. Ces fans attendent que vous sortiez quelque chose de votre chapeau, de nulle part. Une chose qui n'existait pas. Une chose qui, avant que les fidèles ne se rassemblent ici, n'était qu'une rumeur sous la forme d'une chanson. Dans la ville d'où je viens, tout est un peu une arnaque.
So am I.
Moi y compris. En 1972, je n'étais pas un pilote de course rebelle, ni un punk. Je jouais de la guitare dans les rues d'Asbury Park. Mais j'avais d'autres atouts dans mon jeu. J'étais jeune, j'avais 10 ans d'expérience à jouer dans les bars, une bande d'amis musiciens qui connaissaient mon jeu, et j'avais un tour de magie. Ce soir, je viens vous donner la preuve vivante que ce « nous » incroyable et insaisissable existe, particulièrement de nos jours. Voilà mon tour de magie. Comme tout bon tour, il commence par une mise en scène. I stood stone like at midnight, suspended in my mastery. I combed my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strolled all alone through a fallout zone. Came
He flew from my mast, and my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I pushed B-52 and bombed them with the blues, with my gear set stubborn on standard. I broke all the rules, strafed my old high school, never once gave thought to landing. Job of my entire life. I've never done any hard labor. I've never worked 9 to 5. I've never worked 5 days a week until right now.
Bon, là, il est reparti pour très longtemps, hein, Bruce Springsteen. Il a dit que c'est la première fois qu'il travaillait 5 jours par semaine. Puisque c'était le cas, il jouait du lundi au vendredi dans son club. La fan, Sophie Rosemont, c'est une blague. Vous n'avez pas de goût particulier pour Bruce Springsteen, ce qui permet d'avoir un regard absolument...
Je suis parfaitement objective parce que objectif. Je n'ai rien contre lui.
J'attends toute votre subjectivité en même temps.
Quelques chansons et albums que j'aime bien, Nebraska par exemple. Mais il est vrai que là, en fait, le gros problème pour moi de ce disque, c'est que c'est un disque. C'est-à-dire qu'on voit, qu'on regarde ce concert qui dure 2h30, donc je l'ai vu sur Netflix. C'est bien parce que c'est un one-man show, c'est pas un concert. Donc l'écouter en disque, je ne vois aucun intérêt. Mais quand je dis aucun, c'est même pas l'ombre d'un intérêt, sauf si on est fan ultime de Springsteen. Et là, je sais que c'est la folie, il y en a beaucoup, ils ont raison, parfait. Mais quand on aime bien, ou juste un peu, non, je vois pas l'entendre déblatérer. Je préfère lire son autobio d'ailleurs. Ce spectacle est un dérivé de son livre, qui était d'ailleurs très agréable à lire, que j'avais bien aimé. J'avais trouvé assez drôle, avec plein d'anecdotes assez intéressantes, inédites, singulières, tout ce qu'on veut. Là, c'est un super comédien en plus. Là, je pense que le prochain step, c'est Hollywood. Là, ça y est, Springsteen, il est prêt à jouer. Il donne, parce que c'est quand même un long texte à apprendre, parce qu'évidemment, il récite son texte, quoi qu'on en dise.
Il le joue,
il incarne, il interprète à 1000%.
En même temps, il parle de lui.
Il parle très très bien de lui, alors ça c'est sûr, le New Jersey, la guerre du Vietnam. Et puis, il y a toujours la petite autodérision pour contrecarrer les petits excès d'ego quand il dit assez justement que pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une usine, qu'est-ce qu'il en a parlé ? Ah bah oui, ça c'est vrai. Hein. Et pour quelqu'un qui a beaucoup parlé d'usine, quel dommage de faire payer ses places entre 300 et 800 dollars. Mais bon, passons. Le documentaire, on va dire. La vidéo du live, je la recommande, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas.
On parle des deux objets ce soir.
Mais le disque, je vois pas vraiment l'intérêt de le recommander. En tout cas, moi, je me suis arrêtée au bout de 3 titres, c'était pas possible. Je pouvais pas plus longtemps. Il y a quasiment pas de assez peu de musique, de chansons. Il y a quand même une interprétation intéressante de Born in the USA. Je la trouve assez abrupte et assez intéressante, mais sinon, ça vaut pas le coup. C'est pas, de toute façon, un concert de base de Bruce Springsteen qui joue 3 heures, où là, il y a pas mal de parlotte, mais quand même beaucoup, beaucoup de musique. Là, c'est un one-man show qui raconte sa vie, son père, sa femme qui intervient, et c'est très mignon à voir, mais en disque, non.
Hugo Cassavetti, sur ce Springsteen, à voir, à écouter, ou les
alors,
deux?
Ouais, on peut commencer sur le problème, je suis totalement d'accord, il y a un problème d'objet. C'est vrai que c'est bien d'en parler, c'est qu'on a lu un peu partout et pas qu'aux États-Unis. En France, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique. Personne ne dit ce qu'il y a sur ce disque, c'est effectivement pour 2 heures, c'est à peu près 1h30 de lui qui parle. C'est-à-dire que c'est un disque audio, donc effectivement, à part les gens qui veulent partir en vacances, comme d'autres écoutent, je sais pas qui, André Dussolier vous lit François Sagan. Donc c'est bien pour eux. Après, on peut aussi s'interroger. On a parlé de Bobby avant sur, on va dire que lui a quelqu'un, Springsteen, qui est le héros absolu comme étant l'homme du peuple si généreux qui est probablement la personne qui a le mieux exploité son catalogue en tous les 6 mois. Non, mais il y a quelque chose comme ça, et comme ce truc, après c'est son droit, je pense.
C'est vrai que ça fait mais longtemps, voilà, je le disais, qu'il a pas
ce qu'on appelle
sorti un disque, quand même, hein.
le working class ultime, mais qui gère bien son business et sa barque. Et je trouve juste un peu inélégant, mais ça va être les contrats avec la fameuse chaîne qui, sur lequel, pour lequel il a, à qui il a vendu les droits. Il aurait pu au moins inclure, comme vous voyez, le DVD. Et là, au moins pour les fans. Moi, je pense, voilà, je suis ni inconditionnel. J'aime beaucoup certaines choses de Springsteen, pas tout, donc je suis pas du tout contre. J'imagine qu'être dans la salle, je comprends, pour un fan ou pas, ça devait être formidable. Déjà, à la télé, 2h30, c'est long. Sauf si vraiment on est, de toute façon, quoi qu'il fasse. Mais c'est vrai que ce surjeu de mimique, d'expression...
Très américain,
effectivement.
Quoi.
Oui, mais ce qui est drôle, là encore, pour quelqu'un qui s'est fait un nom comme étant la bête des stades, de la performance spontanée, tout à l'énergie, la puissance sans calcul, on trouve quelqu'un qui a tenu 1 an et demi tous les soirs, parce que tout ce qu'il dit est... Alors, il l'a écrit très bien, ce bouquin. Il est très bien, son bouquin. Mais il récite tous les soirs. Et il y a quelque chose d'un peu troublant, c'est-à-dire que l'homme qu'on nous a vendu comme l'être le seul vrai rocker ultime, spontané, pas comme les autres calculés, nous fait l'exercice le plus cadré de comédien archi-pro huilé qui calcule tous ses effets tous les soirs pendant 1 an et demi. Et ça, au bout d'un moment, même à la télé, j'en ai un peu marre, parce que après les chansons, il les joue en acoustique. Et pour revenir, c'est pas ce qui manque, les lives de Springsteen, il y a au moins 8000 versions de chaque chanson, donc ça n'apporte pas grand-chose quand il arrive aux chansons. Donc c'est super pour les fans, mais par contre, l'objet est un peu... je suis assez choqué que plein de gens aient dit « Allez, achetez ça à Noël et tout ». Et juste pour revenir sur les archi-fans, je connais une fille dans mon milieu qui est une des plus grandes fans de Springsteen, qui calcule même ses vacances quand il tourne pour aller en vacances pour le voir. Et c'est la première fois qu'elle me dit, c'est la première fois que je n'achèterai même pas le disque.
Ah oui.
Ça m'intéresse pas. Donc, dire que même pour les fans, c'est génial, je pense que c'est bien de
un
prévenir ce qu'il y a sur ce disque. C'est ce qu'on a entendu. Une fois, ça va. Mais
Joseph Gosselin.
Alors, moi, je n'ai absolument aucune affinité avec la musique de Bruce Springsteen, mais vraiment aucune. Et je pense que ça remonte à peu près la première fois où j'ai acheté des disques de manière consciente. J'ai acheté l'album qui, à l'époque, était son album qui était l'album des tubes. Je crois que c'est Born in the USA.
Ah, et mal tombé, hein.
Mais je l'ai acheté avec deux autres disques en même temps. Un peu sur la foi.
Je sais plus quoi. Et 1984, The River, c'était magnifique quand même.
Mais j'ai acheté ce disque-là. J'ai acheté Hatful of Hollow des Smiths et Psycho Candy des Jesus and Mary Chain. Donc, mettons de côté Psycho Candy, regardons les pochettes du Springsteen et du Smith. Ce sont deux pochettes qui, pour moi, traduisent qui ont un langage homo-érotique, en gros, hein. Mais il y en a une qui montre un profil et l'autre qui montre un cul, en gros. Et pour moi, Springsteen, ça a toujours été ça. C'est-à-dire quelque chose qui surfe un peu sur une vague et qui a besoin d'un contexte pour être raconté. Et à partir de là, je n'ai jamais, mais vraiment absolument jamais, trouvé d'aspérité ou de moments dans lesquels les chansons de Bruce Springsteen, et j'ai essayé à peu près tous les albums, me parlaient. Et c'est ce qui est, quand j'ai tenté d'écouter ce très long one man show, ça m'a fait penser par une comparaison peut-être un peu brutal, ça m'a fait penser au disque live de Neil Young. Neil Young qui en sort très régulièrement. Et ça m'a fait penser, je vois Sophie Rosemont qui s'offusque, mais je vais essayer de l'expliquer. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de ce disque, effectivement, autour de Noël, en disant c'est un disque génial, il fait ses chansons, et en plus il les raconte avant de manière intime. Moi, je n'ai trouvé aucune intimité. Et ça m'a fait penser au disque de Neil Young pour une raison assez simple, c'est-à-dire que dans les albums live qu'il ressort, notamment ceux des années 70, il y a toujours un moment où il parle un peu, où il raconte une petite anecdote, où il y a quelque chose, où même parfois il change un mot dans une chanson, et là ça raconte l'intime. Et on est tout à fait avec lui. Là, j'ai juste effectivement l'impression de voir un comique faire du stand-up de manière vraiment très très poussée, et ça à aucun moment ça ne m'a accroché. Et il y a peut-être une chanson que j'aimais bien, peut-être comme ça par réminiscence, de Bruce Springsteen, qui était son tube Dancing in the Dark, et là je trouve la version mais vraiment lamentable.
Il n'y a aucun des morceaux que j'aime. J'en aime, mais ils sont effectivement assez anciens. Mais en même temps, en vous écoutant, je me disais qu'il y a une chose qui dit la vérité, c'est le titre, hein, Springsteen on Broadway.
Ouais,
et c'est exactement ce qu'on trouve dedans, c'est ça.
C'est une mise en spectacle. Finalement, parce qu'on je ne vois pas pourquoi. Voilà.
Riley Walker reprend d'ailleurs, je crois, le Springsteen on Broadway.
La saison prochaine.
Oui, dernier mot, Joseph.
Il y a une chose que j'aime beaucoup de Bruce Springsteen, qui est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, qui est live, où il est à l'orgue, où il fait une reprise de Suicide, d'un morceau qui s'appelle Dream Baby Dream. Là, c'est très très beau. Et là, on sent quelque chose d'honnête et de sincère, alors que je le sens pas du tout ailleurs.
Bon, voilà. Regardez si vous le pouvez. n'achetez
si
pas.
Si vous avez 2h30.
Conseil. Voilà, écoutez par vous-même ce Springsteen on Broadway à voir sur la plateforme Netflix ou à trouver en double CD chez Columbia. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. Alors des choses à gagner, mais bien, vous voyez, c'est pas comme les 10 dont on vient de parler. C'est Sarah Dion qui d'abord nous rappelle la question du jeu d'hier au soir et nous donne sa réponse, Sarah.
La question d'hier était: quelle récompense Vincent Dedienne a-t-il reçu en 2017 pour son seul en scène, S'il se passe quelque chose? Et la réponse est le Molière de l'humour.
Ce soir, les invitations pour un film dont on va parler de nous vendredi dans la dispute cinéma, An Elephant Sitting Still de Roubaud, un film qui sort demain sur les écrans. Quelle est la question, Sarah?
À l'occasion de quel festival international la première de An Elephant Sitting Still a-t-elle eu lieu?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter cette émission et bien sûr s'abonner à son podcast. Demain, dispute art plastique à 19h avec Sally Bone, Anaël Pigeat et Corinne Rondeau à notre affiche Rodin dessiné découpé au musée Rodin. L'art du chantier construire et déconstruire du 16e au 21e siècle, c'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'explication des œuvres d'art d'Heinrich Wölfflin aux éditions Les Carquillés. Et puis un petit salon mené par Lucie Ducomo qui sera consacré aux expositions 100% féminines.